bienvenue sur Le Départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. Je vous emmène avec moi découvrir des personnes et des histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de mettre en avant des parcours atypiques, mais surtout de vous montrer que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Mes invités seront peut-être freelance, salariés ou bien chefs d'entreprise. Quoi qu'il en soit, ils ont tout fait pour choisir et parfois construire leur métier qui est devenu une vraie passion. C'est aujourd'hui le cas de Maciel, ma première invitée, qui a quitté son travail à temps plein pour se lancer en tant que photographe et styliste culinaire à son compte. Maciel, c'est un peu un mentor pour moi. Ça fait plus d'un an qu'on échange régulièrement sur Instagram et elle m'a énormément appris sur la photo et plein d'autres sujets. C'est une personne ultra bienveillante qui est toujours pleine de bons conseils. Je suis très honorée que ce soit ma première invitée. Je vous laisse découvrir son parcours, vous remplir de toutes ses bonnes ondes et surtout vous laisser bercer par sa voix envoûtante. Bonjour Maciel.
Bonjour Manon.
Comment tu vas ?
Très bien, et toi ?
Ça va, merci. Alors je voulais t'inviter sur le podcast. Comme tu sais, je voulais décrire des parcours, plutôt ce qu'on dit atypiques, des gens qui ont changé de vie.
Oui.
Donc je sais que toi, tu étais ingénieur en chimie industrielle, voilà, c'était très technique, et que tu t'es lancé dans la photographie à plein temps. Donc je vais te laisser raconter un peu. D'abord, est-ce que tu peux me dire... Quand tu étais petite fille, quel genre de petite fille tu étais à l'école et ce que tu voulais faire?
Ok.
Voilà, si tu peux me raconter un peu.
D'accord, bien sûr. Merci au début à toi, Manon, de m'avoir invitée pour ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir déjà de te rencontrer, mais aussi de pouvoir partager mon parcours avec les autres. Donc, mon enfance, quand j'étais petite, j'étais plutôt une fille très studieuse. J'aimais beaucoup étudier, apprendre des choses. J'étais une fille très très curieuse aussi. Donc voilà, j'apprenais beaucoup de choses pendant la journée. L'après-midi, quand je reviens à la maison, j'étudiais beaucoup. Mais aussi en parallèle, je faisais beaucoup de dessins. Donc j'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup la peinture. J'aimais beaucoup moins le sport. Donc voilà, j'étais plus... comment dire, j'aimais beaucoup tout, enfin tout ce qui est manuel, tout ce que je peux faire avec mes mains. J'avais beaucoup d'amis à l'école, donc j'étais voilà une personne plutôt ouverte vers les autres. Et quoi d'autre? Enfin, je me rappelle beaucoup de beaux souvenirs de mon enfance. Donc c'était une très belle enfance, bien entourée avec ma famille, avec mes sœurs, mon frère et mes amis à l'école.
Et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Tu disais plus tard je serai
architecte.
Ah bien, moi aussi.
Oui.
Et ouais. Donc tu t'es quand même lancée dans des études
scientifiques.
Voilà.
Oui, tout à
Pourquoi
fait.
Pourquoi? À quel moment tu as choisi ce parcours?
En fait, c'était fait limite d'une façon obligatoire parce que j'ai fait l'examen, j'ai passé l'examen d'entrée pour l'architecture d'intérieur, mais je suis restée sur la liste d'attente. Donc enfin, j'ai loupé l'examen à 3 personnes. Et du coup, je suis restée à la liste d'attente et il n'y avait personne qui désistait des personnes qui ont réussi l'examen. Et je me suis dit, je ne veux pas perdre mon année universitaire. Donc en parallèle, je me suis inscrite en chimie. Et j'ai fait ma licence en chimie générale, puis mon master, etc. Donc voilà, c'était juste à cause de ça.
Et donc, quel état d'esprit t'étais? Est-ce que t'étais quand même contente d'être là? Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que tu te disais quand même qu'un jour tu reviendrais à l'architecture?
Non, pas du tout. Au début, quand j'ai commencé la licence en chimie, c'était un rythme assez soutenu. Donc, il y avait des études. J'avais genre 12 matières pendant le premier trimestre. Et si jamais je vais pas réussir ce premier trimestre, je vais pareil louper mon année. Donc, je me donnais à fond. Je passais pareil toute ma journée, le soir, en train d'étudier pour réussir. Et voilà, le premier trimestre c'était assez difficile parce que j'ai changé d'ambiance entre mon école, enfin le lycée et l'université. Et il fallait que je me donne à fond, donc voilà, je pensais plus à l'architecture. Donc j'ai tout de suite coupé le cordon entre ce que j'aimais vraiment faire et ce que j'ai dû faire à cause voilà de l'examen. Et ça s'est très bien passé. C'était une très bonne année à l'université. Et j'ai enchaîné après avec 2 autres années, puis j'ai changé d'université pour faire mon master 1.
Et donc tout ça c'était au Liban. Et après tu arrives en France.
Oui.
pourquoi. Pourquoi tu arrives en France? Est-ce que c'est tes études qui t'ont amené là ou pas?
Oui, c'est ça. Donc, je suis venue en France en 2008, fin 2008, donc septembre 2008, après mon master 1. Donc, j'ai fait un master 1 en chimie industrielle et je suis venue en France pour faire mon master 2 en ingénierie chimique. Pour moi, venir en France, c'était un rêve. Je voulais toujours venir en France pour continuer mes études universitaires. Et le but, c'était de faire mon master 2 ici et revenir au Liban pour chercher du travail et surtout... pouvoir faire bénéficier mon pays natal de mes compétences. Donc c'était ça l'objectif.
Ok.
Et après, j'ai pas pu trouver du travail au Liban, donc je suis revenue de nouveau en France pour faire mon doctorat en énergétique et procédés pendant 3 ans.
Ok. Et dans tout ce parcours, à quel moment elle intervient, ta passion? Ta première passion, c'est la pâtisserie, on est d'accord?
C'est ça.
À quel moment est-ce qu'elle intervient?
Tout à fait. Elle intervient au moment de ma thèse. Quand je faisais ma thèse, j'étais à Sophia Antipolis, donc j'avais pas d'amis au début. Je me concentrais réellement à ma thèse. Et du coup, il fallait que je prépare des gâteaux, il fallait que je prépare des plats. Et je me rappelle, il y avait mon fiancé, donc qui est mon mari actuel, qui est venu me voir. Et je voulais lui faire plaisir, donc je lui ai préparé un cheesecake aux framboises. C'est son gâteau préféré. Et j'ai suivi la recette de Hervé Cuisine. Et il a adoré. Donc, quand il m'a dit qu'il a adoré, je ne m'attendais pas du tout. Parce que moi, à la base, je ne savais pas du tout cuisiner, ni même préparer des gâteaux. Donc, c'était vraiment une première pour moi. Et depuis, je préparais des gâteaux, des gâteaux pour lui faire plaisir, se faire plaisir. Mais c'est après 3 ou 4 ans, que j'ai réellement consacré du temps à faire les gâteaux.
Tu passes de plus en plus de temps à faire des gâteaux. On est quelle année à peu près là?
Donc, le premier cheesecake que j'ai préparé, c'était en 2015, oui. Donc, moi, j'ai terminé ma thèse en 2000. Ah pardon, je dis des bêtises, je suis désolée. 2014, j'ai terminé mon doctorat. Donc il faut dire en 2011 que j'ai fait ce gâteau pour mon mari.
D'accord.
Tu vois, donc je suis désolée.
Donc c'est 2011. Il s'est passé un peu de temps avant que tu ouvres cette fameuse page Instagram.
Exactement.
Sur laquelle il n'y a que des gâteaux.
C'est ça, au début, oui.
Au début. Et en fait, ouais. J'ai remarqué sur cette page Instagram, il y a... Au début, il n'y a vraiment pas beaucoup de photos.
Oui.
Peut-être une tous les mois, tous les 2 mois.
C'est ça.
Et après, ça commence à se rapprocher. Et on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se démarque.
Oui.
Il y a un style, il y a un truc. Comment tu t'es dit qu'il fallait un style à toi? Est-ce que tu l'as cherché? Est-ce qu'il est venu naturellement?
Le style, ça s'est venu naturellement, tout à fait. Ça s'est venu vraiment naturellement. Parce que vu à la base que j'aime beaucoup l'art, et c'est vraiment ça que je voulais faire, à l'université, je sentais que la photographie ou la préparation des gâteaux, c'est vraiment de l'art que j'exerce, mais de cette façon-là. Donc, en préparant des gâteaux en cake design ou en faisant des cupcakes ou du modelage avec la pâte à sucre, j'ai eu le sentiment que comme si je dessinais ou comme si je faisais la peinture. Donc, c'était vraiment un domaine où je me retrouvais, où je retrouvais ma première passion à l'art, au dessin, à la peinture.
Ouais, on sent vraiment en fait qu'il y a une part de toi dans chaque photo et dans chaque... Enfin, du coup, moi, je vois que les photos. C'est vrai que j'ai jamais mangé tes gâteaux.
Oui, je sais.
Mais et du coup, la photo, elle vient avec la pâtisserie, j'imagine.
Enfin, c'est ça.
Tu fais quelque chose de très beau, tu as envie de le prendre en photo. Et après, comment ça te plaît? Comment tu te perfectionnes?
Oui. Alors, au début, j'ai découvert ma passion pour la pâtisserie. Donc, la pâtisserie, principalement, le cake design. Donc, faire des cupcakes avec de la pâte à sucre dessus ou bien faire des gâteaux, pareil, avec de la pâte à sucre que je proposais à mes collègues pour les anniversaires de leurs enfants. Donc, c'était comme ça au début. Tout d'un coup, j'ai senti que, c'est bien de préparer les gâteaux, mais c'est aussi mieux de prendre de belles photos. Parce que j'ai lancé ma page Instagram et j'ai eu le sentiment que tout est dans la photo. Finalement, même si ton gâteau est très très beau, mais t'as pris une mauvaise photo, on va pas vraiment dire que ton gâteau est beau ou ça donne envie de le goûter. Donc à ce moment-là, j'ai switché vers la photographie. Donc il y a mon mari qui m'offrait l'objectif 50 mm et c'était à Noël 2016. Donc c'était juste après la naissance de mon enfant. Et c'est à ce moment-là que je me suis réellement intéressée à la pâtisserie et à la photographie. Donc à ce moment-là, je commence à faire des tests avec cet objectif. Et à chaque fois que je prenais une photo, j'envoie la photo à mon mari. Je dis, mais alors, est-ce que tu aimes? Est-ce qu'elle est belle, etc. Et je trouvais que voilà, il m'encourageait. Il y avait aussi mes copines qui m'encourageaient, ma famille. Et à chaque photo, je sentais une bouffée d'adrénaline. Genre, voilà, c'est une photo que je l'imaginais comme ça. J'arrivais à la prendre et je la publiais. Et au moment où je voyais l'interaction avec les gens sur Instagram, j'ai senti que voilà, c'est vraiment gratifiant. Donc voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me lie de plus en plus à la photographie.
Donc maintenant, tu es plus photographie que pâtisserie. On voit sur c'est ta page qu'il y a
tout à fait
d'autres photos, qu'il n'y a pas que des gâteaux dessus.
C'est ça.
Tu diversifies. Mais tu gardes toujours ce truc. Moi, quand je déroule mon fil Instagram, j'ai même pas besoin de voir si c'est Maciel qui a publié la photo. Je le sais quand je la vois, en fait.
Oui.
C'est vraiment... Comment tu le décris, ce style ?
Alors, il y a des gens qui me disent « on sent ta patte dans la photo ». Comment je décris ce style ? En fait, je sais pas si j'arrive à trouver les mots pour décrire réellement mon style. Je trouve que c'est un mélange de plusieurs choses. Donc, il y a en premier lieu l'art, enfin, mon regard envers les choses. C'est-à-dire, par exemple, là, un chocolat chaud, je le vois, peut-être que je le vois différemment. Bien sûr, chaque personne a une vision complètement différente de l'autre, de toute façon. Mais je vois toujours les choses d'une manière artistique, d'une manière abstraite. Enfin, je vois les choses au lieu de ce qu'elles sont. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Après, j'avoue que je ne fais pas du tout de sketch des mises en scène que je souhaite faire. Je les vois dans ma tête, je m'inspire beaucoup de la nature, je m'inspire beaucoup des faits personnels, des choses qui passent avec moi tous les jours et j'essaie de les intégrer dans mes photos. Donc je trouve que même par exemple là en ce moment je propose beaucoup de formations de photographie et de stylisme culinaire et je dis tout le temps il y a des personnes qui me disent mais t'as pas peur de voilà qu'il y aura plus tard des gens qui vont te faire de la compétition ou voilà qui vont limite prendre ton style et par la suite pouvoir le faire. Je dis que non, finalement je suis en train de donner des bases de la photographie ou du stylisme, mais finalement chaque personne va avoir un style complètement différent de l'autre parce que c'est vraiment comme tu disais, on sent qu'il y a de toi dans les photos. Donc, c'est vraiment ce moi. Il n'y a personne qui va pouvoir le remplacer plus tard. Donc voilà.
Oui, très bien. Tu m'as fait une transition toute faite parce que du coup, je voulais parler du fait que maintenant, tu t'es lancée à 100% dans la photo. Comment tu as senti ce besoin de passer de ton métier à temps plein d'ingénieur en chimie industrielle à photographe, professeur de photo et plein de choses, tu fais énormément de choses. Donc comment est-ce que tu as senti ce besoin de passer à autre chose et dans quel état d'esprit tu étais au moment de passer à autre chose?
Alors, c'est principalement ma vie de famille qui m'a poussée à faire cette transition. En fait, ça fait un an et demi que je bosse en entreprise à temps plein et avoir un enfant, c'est très difficile pour pouvoir allier la vie professionnelle et la vie familiale, donc en parallèle. Et j'ai pas de famille en France, donc j'avais pas assez de soutien de personnes autres que mon mari qui puisse vraiment prendre le relais si jamais je peux pas être à temps pour le récupérer de la crèche ou de l'école. Et vu que en parallèle de mon emploi de temps assez chargé pendant la journée, le soir je prenais des photos, je m'occupais de mon blog et aussi de ma famille, donc du moment où je récupérais mon enfant. Donc ce rythme assez soutenu donc entre ma passion et mon travail et ma famille m'ont poussé limite voilà à se dire c'est bon, il faut que j'arrête, je peux pas continuer à avoir ce rythme là toute ma vie. C'est clair que j'ai une passion qui est très très grande pour la photographie et que je souhaitais réellement la développer. La décision que j'avais prise, c'était en juillet. En juillet, je me suis dit, voilà, c'est bon, je vais devoir arrêter parce que je trouvais que tout l'acharnement que je fais et tout ce que je donnais vraiment beaucoup, beaucoup de moi pour mon travail à temps plein en entreprise. Et je ne trouvais pas en parallèle une reconnaissance, ou je ne trouvais pas en parallèle je trouvais pas. Comment dire ? Voilà, c'était vraiment la reconnaissance. Enfin, je cherchais pas la vraie reconnaissance parce que je sais très bien ce que je faisais, je sais très bien comment je me donnais à fond pour mon travail. Mais je trouvais que tout ce que je fais, tout ce que je fais, enfin, du bon matin jusqu'au soir, le fait, voilà, de courir dans tous les sens pour être à temps au travail, pour être à temps le soir, etc., etc., ne méritait pas. Quand je vois en parallèle, voilà, le salaire que je percevais, quand je vois en parallèle le manque d'appréciation, quand je vois en parallèle plein de choses, je disais que non, ça ne mérite pas tout ça. Donc voilà, je me suis dit, c'est bon, j'ai pris ma décision de démissionner en septembre pour avoir un préavis de 3 mois. Et même si j'étais contente, je voulais continuer ma mission, je voulais continuer, enfin aboutir parce que je bossais sur un projet qui me passionnait, que j'aimais bien. Mais voilà, je me suis dit, si je prends ma décision, je ne prends pas ma décision maintenant. Peut-être que je voulais faire plein de choses plus tard. Donc, j'ai senti que c'était ça. C'était maintenant ou jamais.
Donc, 1er janvier 2020.
C'est ça. Photographe et styliste culinaire à temps plein.
Et comment on vit ce changement où on sait qu'au mois de décembre, on a un salaire qui tombe.
Oui.
1er janvier 2020, on n'est pas sûr qu'au 31, on aura le même salaire.
Tout à fait.
Est-ce que tu avais déjà des clients avant? Comment ça se passe dans ta tête? Parce que t'es en plein dedans, en fait.
Exactement, exactement. Et en plus, le fait de démissionner, tu vas pas percevoir le chômage. Enfin, t'as rien, t'as rien. T'as aucun revenu qui, comme tu dis, qui t'attend à la fin du mois. Mais ce qui s'est passé, c'est que la première semaine du mois de décembre, je reçois des mails de 2 clients. De 2 personnes qui sont intéressées, de 2 entreprises qui sont intéressées de travailler avec moi. Et j'ai senti que c'était un signe de Dieu. Je me suis dit, voilà, apparemment j'ai fait la bonne décision. Parce que ce sont 2 clients avec qui je vais pouvoir travailler avec eux en mars, finalement. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai plein de choses en parallèle. En parallèle de travailler à temps plein en tant que photographe, j'ai mes cours, donc les cours en ligne, les cours que je propose en groupe de 4, j'ai les cours que je propose en privé. Donc même si il n'y aura pas une dizaine de clients en mois de janvier avec qui je vais pouvoir bosser, j'ai en parallèle mes cours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé depuis l'année dernière et que je continue jusqu'à aujourd'hui, que j'adore faire ça. En parallèle, je me suis dit, je vais préparer des workshops à l'étranger. Donc ça, c'est pareil, quelque chose que j'ai pu bosser là-dessus au mois de janvier. Donc ce mois-là, même si je ne veux pas percevoir le même salaire que j'ai, voilà, que le mois de décembre ou d'octobre, ça ne me dérange pas du tout. Honnêtement, je dis que voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que je fais bien, que j'adore faire. Mais surtout, ce que je gagne en parallèle, c'est le fait d'être assez zen dans mes jours, le fait d'être assez calme dans mes jours, le fait de ne plus courir dans tous les sens pour être à 9h au boulot et quitter à 17h30 pour être à 18h30 à l'école, le fait de ne pas laisser mon enfant 10 heures à l'école. Donc voilà, je gagne beaucoup plus que ce salaire à la fin du mois.
Ça n'a pas de prix.
Exactement, exactement. Donc voilà, je trouve, et en plus le soutien de mon mari qui m'a dit, mais voilà, ne t'inquiète pas, même s'il n'y a pas ce salaire à fin du mois, il est là, il est présent. Donc je trouve que voilà, je suis très bien entourée et ces personnes qui ont confiance en moi, qui ne m'ont pas lâchée, genre voilà, qui sont toujours moi et qui ne m'ont pas me lâcher, qui sont là pour me booster, pour continuer à avancer, même si voilà, je ne veux pas arrondir mes mois avec le même montant que les mois derniers.
Forcément.
Et ça ne me pose pas du tout de problème.
Ton métier aujourd'hui, en quoi il consiste? Le matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, tu as eu des galères de transport.
C'est ça.
Mais d'habitude, comment ça se passe?
C'est ça. Donc là, tout le mois de janvier, j'essaye d'avoir des to-do list à mettre tous les soirs. Donc je dis, voilà, demain je vais faire telle et telle et telle tâche. Je m'organise en fonction des journées. Donc je dis que lundi, mardi, je réponds aux mails, j'appelle les gens ou voilà, si j'ai des points téléphoniques à faire avec des clients, j'essaie de les caler les lundis et mardis. Le matin, je me réveille, je dépose mon enfant à l'école avec toute sérénité. Je prends mon petit déjeuner quand je rentre à la maison. Je discute avec ma mère, j'appelle ma mère, j'appelle mes sœurs. Je discute avec ma famille. Je les appelle, je n'envoie plus des messages parce que je suis sur la route ou je n'ai pas le temps. Donc, je prends le temps réellement pour se consacrer à ma famille, à mes amis que j'adore. Et après, je commence à bosser vers 9h30-10h. Donc voilà, je commence à envoyer mes mails, à envoyer des devis, à contacter les clients. Et après, j'essaie de prendre des pauses, voilà, soit de déjeuner, soit pareil, de discuter avec mon mari au téléphone, etc. En parallèle, j'essaie de m'organiser par rapport au shooting. C'est-à-dire, si le mercredi, je souhaite faire par exemple 2 ou 3 shootings, de commencer à préparer au début les plats. Donc voilà, je dis par exemple, je veux faire un gâteau. Donc mon premier shooting en 2020, c'était un gâteau. Donc par exemple, pour ça, j'ai dû diviser la tâche sur 3 jours pour ne pas avoir une longue journée de préparation de gâteau et de shooting en parallèle parce que c'est super fatigant. Donc voilà, j'essaie vraiment de prendre soin de moi et aussi de mon travail en parallèle pour être la plus efficace possible. Mais aussi la plus zen possible. Donc voilà, lundi, mardi, donc, comme je te disais, donc, le matin comme ça, l'après-midi, je prépare soit des gâteaux, soit des plats salés. Pareil pour préparer aussi pour le dîner quand je ramène mon enfant et mon mari. Après, donc, pour les jours où il y a du shooting, donc, je me lève pareil le matin. À la base, je prépare, donc à l'avance, je prépare mes scènes, mes mises en scène. Donc, soit je fais des mood boards, soit je sais déjà à la base donc, quelles sont les couleurs que je vais utiliser, comment je vais faire ma mise en scène, quelles sont les fleurs que je vais utiliser, etc. Et je prépare ma mise en scène. Je commence au début par le shooting. Donc je place ma caméra, je prends les photos, j'essaie de voir directement le photo pour voir s'il n'y a pas des choses à modifier, et après le rangement, la chose qui est la plus laborieuse, mais bon, ça fait partie du travail. Et après, il y a la retouche des photos, le tri des photos, la préparation de l'article sur le blog, la rédaction de l'article. Et après, il y a tout le travail à faire sur Instagram, le fait de communiquer sur l'article qui est sur le blog, de publier les photos, d'interagir avec les gens, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment tout un tas de travail. Moi, je dis que je travaille dans la photographie et le stylisme culinaire, la création de contenu, mais il y a tout un panel de choses à faire à côté. Donc, mis à part la création de contenu, la création de recettes, le stylisme culinaire, la photographie culinaire, la retouche des photos. Donc, il y a des tas de choses à faire.
En fait, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on va juste sur Instagram comme ça pour se détendre ou autre. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et en plus, comme toi, du coup, tu es freelance. Je pense que c'est ça ton statut.
Oui, auto-entrepreneuse, oui.
Tu as aussi toute une partie administrative.
C'est ça.
Au final, maintenant, la photo, elle te prend juste la photo en elle-même, la prise de photo.
Oui.
C'est ce que tu préfères faire?
Oui.
Déjà, ou est-ce que la retouche, ça fait aussi partie du processus que tu aimes? Et combien de pourcentage de ton temps, au final, ça te prend?
Oui, c'est clair que la retouche, bien sûr, j'aime bien. Ce que j'aime le plus, mis à part la partie administrative, c'est un peu chiant, bien sûr, mais... Vu que je commence, là, je commence réellement dans ce domaine. Donc, je n'ai pas assez de tâches administratives à faire. Mis à part communiquer sur les charges, payer les charges à la fin des trimestres, hein, parce que chaque trimestre, il faut payer des charges auprès de l'URSSAF. Essayer de, de savoir de plus en plus de détails par rapport à ce statut, quels sont les avantages, etc. Mais à part ça, je n'ai pas assez de tâches administratives à faire. Après, pour toute la partie photographie, stylisme, retouche des photos, ce que j'aime le plus, c'est vraiment la photographie. Mais la photographie... La photographie en action, c'est quelque chose que je souhaite continuer à développer et à mettre plus en avant sur mon Instagram, enfin sur mon blog et aussi sur mon feed Instagram. Prendre des photos des objets ou des plats ou des liquides ou de ce que c'est en mouvement, c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai l'impression, c'est ce que je disais hier à mon mari, ça fait partie de mon cursus scientifique. Le fait de voir des choses en train de bouger, la mécanique des fluides, de deux liquides qui se mêlent ensemble ou des états qui se mêlent, par exemple, la fumée ou les bulles, voilà des phénomènes qui sont rarement pris en photo. C'est quelque chose que je souhaite élaborer et mettre en avant plus cette année. Et c'est vraiment un défi pour moi parce qu'il y a beaucoup de techniques derrière cette photographie et la photographie de ces éléments. J'aimerais bien sûr passer genre 50% de ma semaine à prendre des photos, mais il faut savoir que il faut puiser beaucoup de voilà de il faut avoir beaucoup d'inspiration, il faut mettre en avant voilà, faire des to-do list pour savoir réellement comment prendre des photos. Il faut se préparer beaucoup aussi pour chacune des mises en scène, surtout si ce sont des mises en scène assez techniques. Donc, par exemple, prendre une photo du café en train de voilà de voler dans l'air ou par exemple de je sais pas de qu'est-ce que j'avais pris ou de la fumée qui sort d'une tasse. Ça prend énormément de temps pour mettre pour préparer la mise en scène, avoir la bonne lumière. Etc. Donc voilà, la retouche, elle fait aussi partie, elle prend beaucoup de temps, la retouche. C'est pas juste je clique sur un bouton, même si j'ai des presets, mais il faut avoir aussi le travail, il faut faire le travail de nouveau sur chacune des photos. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps.
Très bien. En fait, j'ai toujours mon appareil photo dans mon sac.
Oui.
Et je t'avais pas prévenue, oui. Mais je voulais te lancer un petit défi, entre guillemets, parce que je sais que tu vas le relever haut la main. Mais quand on aura terminé, voilà, sur la table, on a un chocolat chaud, un muffin et c'est tout.
D'accord.
Et que tu me prennes une photo.
D'accord.
De ce qui se passe, de ce moment. De,
bien sûr.
Voilà, pour que ça paraîtra sur le blog et
avec
l'épisode.
Oui.
Voilà, comme ça, les gens pourront voir l'étendue de ton talent.
Ah, merci.
Et voilà, je te laisserai. Je sais pas si t'as le tien d'appareil photo. Si t'as le tien, tu peux le faire avec le tien. Sinon,
non,
j'ai le mien.
Je l'ai pas, mais c'est pas grave.
Voilà, je sais que tu vas y arriver.
Mais c'est top. Merci à toi pour ce challenge.
Voilà. Et ben, ça me fait plaisir. J'aurai un petit cours personnel en même temps.
Oui.
Écoute. J'avais encore une question par rapport à tout ce parcours. C'était un conseil qu'on aurait pu te donner qui t'aurait fait un déclic ou quelque chose qui t'aurait fait sauter le pas, que tu voudrais partager pour peut-être que ça inspire les gens ou...
Oui, alors moi ce que je souhaite conseiller, surtout, enfin j'ai deux conseils. Un conseil pour les gens, les lycéens qui souhaitent commencer l'université et souhaitent choisir leur carrière professionnelle. À 18 ans, que je trouve très très tôt. Je souhaite juste leur dire de suivre leur cœur, de suivre leur propre passion, parce que c'est dans ce domaine-là qu'ils vont pouvoir réellement avancer et s'épanouir. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est à toutes les mamans. À toutes les mamans qui se retrouvent 24 sur 24 en face de leurs enfants, de leur premier enfant, parce que c'est vraiment la première expérience d'être maman et la plus difficile. Je leur donne un conseil de prendre bien soin de leurs enfants, de leur parler beaucoup, de partager leurs émotions et leurs sentiments avec leurs enfants, même s'ils ont 2 et 3 mois ou même 1 mois, de parler avec eux comme s'ils étaient des gens adultes, enfin des adultes. Et surtout de s'occuper d'elles-mêmes, les mamans, parce qu'on s'oublie facilement quand on devient maman et on met de côté nos propres passions et nos propres centres d'intérêt. Donc je leur conseille de s'occuper de leurs enfants, de se donner à fond bien sûr, mais en parallèle de ne pas s'oublier et de s'occuper aussi d'elles-mêmes et de pouvoir continuer à développer leur propre passion ou de retrouver leur passion. Parce que honnêtement, quand je vois et je parle avec beaucoup de mamans, de jeunes mamans, qui me disent, moi c'est pareil, enfin eux, pour elles c'est pareil aussi, elles ont pu retrouver leur passion au moment où elles sont devenues mamans. Donc n'hésitez pas à s'occuper de soi, mais aussi de vos enfants à 100%.
Très très beau conseil, merci.
De rien.
Et une difficulté que t'as rencontrée, soit avec ton enfant, soit dans ce parcours, et qui vraiment t'a encore plus motivée, ou alors peut-être pas, et comment tu l'as surmontée, une grosse difficulté comme ça, ou un obstacle peut-être, je sais pas trop comment le formuler.
Oui, alors une difficulté, c'était surtout au moment, quand je suis devenue maman. Mon enfant, il avait des coliques. Il avait des coliques pendant au moins 6 mois. Donc, il avait des coliques. Il pleurait toujours. Il pleurait tout le temps. J'arrivais pas réellement à l'apaiser, mis à part le prendre dans mes bras, lui parler, etc. Donc pour moi, c'était, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette difficulté-là. Je pensais que devenir maman va être vraiment... Enfin, tout sera rose, tout sera beau, etc. Enfin, moi, je vis toujours sur une autre planète, la planète des bisounours, je veux dire. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout. C'était pour moi, limite, un réel choc parce que je pensais que j'arrivais... Enfin, c'était pas à cause de moi, mais je pensais que, voilà, peut-être que je faisais quelque chose de mauvais ou de mal, ou j'arrivais pas réellement à apaiser mon enfant. Donc, c'était assez difficile, assez difficile pour moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis limite reconvertie, enfin, sans le savoir. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'ai une passion pour la photographie et pour la pâtisserie. C'est en parallèle du fait que je prenais soin de mon enfant que je voulais faire autre chose. Donc c'est à ce moment-là que je voulais préparer les gâteaux de plus en plus, faire des photos de plus en plus, parce que je trouvais que ça m'apaisait. Et à un certain moment, ça lui apaisait aussi, du moment où moi, je me sentais aussi bien. Donc voilà, c'était une difficulté que j'ai pu surmonter en se découvrant et en sachant que j'ai une passion pour la pâtisserie et la photographie.
C'est très, très beau. J'aime beaucoup cette idée de surmonter cette épreuve par le fait de se retrouver soi-même, en fait.
Tout à fait.
C'est magnifique. Maintenant, je voudrais passer... Alors, j'aurais peut-être d'autres questions qui vont me revenir, hein, je ne sais pas, on verra. Mais je voulais te faire une petite liste de questions plus... plus fun. Voilà. Ton gâteau d'enfance.
Alors, je suis sûre que je ne vais pas répondre tout de suite à ces questions parce qu'il faut que je me rappelle. Gâteau d'enfance.
Celui qui, si tu le manges, il te rappelle instantanément ton enfance.
Oui, la bûche de Noël.
Ah,
la bûche de Noël. La bûche de Noël au chocolat.
Ah, la gourmandise, oui. Toujours.
Oui, oui, oui.
Un dessert pour un repas de famille.
Un dessert pour un repas de famille.
Ou que toi, tu ferais là, tout de suite, si tu invitais ta famille à manger.
Donc, ça sera la baklava. C'est une pâtisserie orientale qu'on partageait ensemble avec ma famille quand on est tous chez ma grand-mère, pardon.
Moi, je connais ça de par toi, en fait. Oui. Je ne connaissais pas du tout. Oui. Et en fait, tu en as posté sur ton compte Instagram.
Okay.
Et j'ai découvert, voilà, j'ai trouvé ça très, très mignon, en fait. Et j'en ai jamais mangé, mais okay. Un jour, peut-être.
C'est super bon,
voilà.
C'est super bon, mais c'est super gras.
J'ai envie de dire, c'est un peu la pâtisserie orientale, c'est toujours assez... Oui. Assez gras, mais bon, je suis sûre c'est très bon.
Mais tu sais, d'ailleurs, cette pâtisserie-là, je l'avais préparée à mon directeur de thèse. J'étais invitée une fois chez lui, au dîner, et je lui ai préparé ça, et il a adoré. Je lui ai préparé des mignardises.
Le prochain gâteau d'anniversaire de ton enfant.
Ah, le premier anniversaire, enfin, le premier gâteau, je l'avais préparé, c'était une voiture. Le deuxième, je ne l'avais pas préparé, mais c'était pareil, le thème des voitures. Le troisième...
Ce serait une voiture.
Ce serait une grosse voiture encore. Je ne sais pas. Alors, le troisième anniversaire, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il a maintenant. Ah, je pense que ce sera Peppa. Peppa the Pig.
Ah oui, d'accord.
Il aime bien Peppa.
Toujours dans le cake design, du coup.
Oui, toujours dans le cake design.
Très bien.
Oui.
Un gâteau... Pour un goûter entre amis.
J'aime bien préparer. La dernière fois, j'avais préparé un gâteau blanc et gâteau à la vanille avec une crème au beurre suisse vanille. Et tous les voisins ont adoré. Donc, je pense que je ferai ça.
La personne que tu rêverais de rencontrer dans le monde de la pâtisserie.
Ah, de la pâtisserie.
Ouais, je reste dans la pâtisserie.
Ok, dans le monde de la pâtisserie. Pâtisserie ou photographie?
Ah, tu peux faire la photographie. Mais je vais pas connaître, je pense, mais tu peux...
Ok. Alors, dans la pâtisserie... j'avais tellement envie de rencontrer le chef Conticini et c'était fait. Donc, j'ai rencontré plusieurs fois et à chaque fois, j'apprends plein de choses de lui. Donc, sinon, une autre personne en pâtisserie... Donc j'aimerais bien rencontrer la chef pâtissière qui est élue meilleure chef pâtissière dans le monde, Jessica Prealpato. Ses pâtisseries m'intriguent beaucoup. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'avais lu une interview avec elle et la chef Sophie Pic. Et je trouve qu'elle est, ce qu'elle propose est très très intéressant. Et elle a une vision qui est bien particulière à elle, que je souhaite découvrir en détail.
Elle est excellente. Enfin, je la trouve absolument géniale.
Exactement.
Et donc, si tu étais amenée à la rencontrer, quel gâteau tu lui apporterais ?
Ah, ben je vais lui ramener mon meilleur gâteau. qu'est-ce que je vais lui ramener ? Je vais lui ramener.
Je sais que quand tu avais rencontré Philippe Conticini, tu lui avais ramené quelque chose.
Tout à fait. Alors, quand j'ai rencontré le chef Conticini, je lui ai ramené des atayef au chocolat et à l'eau de rose aussi. Donc, les atayef, c'est un dessert libanais que j'ai décliné en chocolat. Donc, dans le monde arabe, on connaît beaucoup les atayef, mais en nature, donc en goût nature. Et du coup, je l'ai décliné en chocolat et c'était très très bon, c'était vraiment très bon. Donc voilà, merci pour l'idée. Donc je vais lui ramener aussi des
atayef.
Et du coup, le chef Conticini m'a dit voilà, donc ça c'est un dessert qui est authentique, qui est vrai, qui est bon et qui est sans comment dire, qui est assez naturel, qui est assez correct. Donc voilà, je partagerai bien volontiers avec elle ce dessert.
Très bien. La chose indispensable qui est toujours dans tes placards ou dans ton frigo. Et s'il y a un ingrédient, les pâtes. C'est vrai que...
Ce sera les pâtes. Le jour où j'ai plus de pâtes à la maison, c'est la catastrophe. On adore les pâtes à la maison parce que ma mère, pareil, ma mère, elle adore les pâtes. Elle nous préparait genre, je sais pas, mais N déclinaisons des pâtes. Et à chaque fois, c'est super bon. Donc pareil, avec mon enfant, je partage avec lui beaucoup de recettes de pâtes. J'essaie autant que possible de diversifier actuellement. Mais ce sera les pâtes, bien sûr.
Ton péché mignon, ce que tu n'avouerais pas que tu manges en cachette et que tu vas avouer là, maintenant.
Moi, j'adore les tartes au citron meringuées. Je peux manger ça toute ma vie, limite. J'adore. Oui, limite tous les jours. J'adore tout ce qui est au citron. Enfin, tous les desserts qui sont au citron. J'adore le citron. Donc, voilà. Je mangerai ça tous les jours.
Si tu avais une recette rapide, simple, facile, à partager comme ça, là, en 3 minutes.
Deux plats ?
Ou deux desserts, ou deux plats, okay. Ou comme tu veux.
Oui. Ça sera une recette de salade libanaise que tout le monde connaît, mais qui ne connaît pas la bonne version. C'est le taboulé libanais. Donc, c'est une salade...
Tu vas nous donner la bonne version.
Exactement. Donc, c'est super simple. C'est super facile à préparer. Mais il suffit d'avoir 5 bottes de persil plat, avec 3 tomates qu'il faut couper. Enfin, il faut bien hacher le persil. Il faut bien couper aussi le tomate, mais genre en tout petits morceaux. Et un oignon. Avec 5 cuillères à soupe de l'huile d'olive, 5 cuillères à soupe de jus de citron. Et après, il y a les épices. Les épices qui sont très très bons, c'est du sumac. C'est une épice pareille, orientale. Avec, vous pouvez mettre aussi du poivre, du sel bien sûr. Et il y a aussi le bol rouge, ou le bulgur. Le bulgur, c'est... Donc c'est du blé concassé que vous pouvez retrouver dans les... soit j'ai des traiteurs libanais, soit des et c'est tout. Donc il y a combien d'ingrédients ? Il y a les persils, tomates, boulgour, il y a les épices, de l'huile d'olive et le jus de citron. Donc il y a 6 ingrédients. Et c'est super bon, c'est super frais et ça fait tellement bien pour le corps. Le persil est très bon. Et ça, c'est la bonne version du taboulé libanais. C'est pas... Il n'y a pas... comme on trouve en France, plus de boulgour ou de blé concassé que du persil. C'est plutôt l'inverse.
Ok. Est-ce que la recette, elle est sur ton blog ?
Bien sûr.
Très bien. J'irai la chercher et je la mettrai dans les notes.
Très
voilà,
bien.
Pour que tout le monde puisse la refaire.
Mais oui.
Tu as quelque chose à ajouter sur tout ça ? Si tu as quelque chose à dire sur ton parcours, sur s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié des choses.
J'aimerais bien parler du premier bouquet de cupcakes que j'ai préparé.
Vas-y, parle-en. C'est vrai, j'ai lu ça où ? J'ai lu ça sur ton blog ou sur Instagram ?
Ah, peut-être que sur mon blog.
Peut-être, oui. Je crois. Oui, dans ta bio sur ton blog,
tout à fait.
Tu racontes.
Exactement.
C'est vrai, vas-y.
Exactement. Donc, ça, c'est une histoire. Voilà, quand je la raconte, il y a par exemple ma copine qui m'a dit « Mais Marcel, on sent que c'est un conte de fées et voilà, les choses se sont passées comme ça. » Donc, je me rappelle, c'était au moment où j'attendais que je commençais mon postdoc. Donc, j'avais 3 mois pour intégrer le CEA. Ils font une sorte d'enquête sur toi et il y avait donc un gap de 3 mois. Et pendant ces 3 mois, donc là, je cherchais, j'étais genre en quête d'activité. Et c'est à ce moment-là que je voyais des photos de cupcakes avec de la pâte à sucre. Donc, je suis allée chercher les ingrédients et il y avait la fête des mères. Donc, je voulais absolument offrir un bouquet de cupcakes à la tante de mon mari. Donc, du coup, j'ai passé genre 3-4 jours à préparer les cupcakes, à décorer les cupcakes, à faire les fleurs en pâte à sucre. Et le jour J, j'ai pris des transports en commun. Donc, j'ai pris le bouquet. Donc, c'est vraiment un bouquet. J'ai cherché un seau. Donc, j'ai mis donc les cupcakes. Donc, je les ai piqués dans le seau et on les voyait. Donc, les cupcakes, c'était vraiment un bouquet. Et après, j'ai emballé dans un papier transparent. Donc, on voyait réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans les transports en commun, donc dans le bus et dans le tram, il y a les gens qui n'arrêtaient pas de m'interroger en me demandant « Mais est-ce que c'est comestible ? Est-ce que c'est... Enfin, c'est quoi ça ? Mais c'est super beau, etc. » Et il y a même un monsieur qui m'a arrêté dans la rue, donc sur le chemin, parce que j'allais arriver. Il y a un monsieur qui m'a arrêté sur le chemin, qui me donnait son numéro de téléphone pour me demander... Enfin, voilà, pour qu'il me... Non, il a pris, pardon, mon numéro de téléphone. Pour qu'il m'appelle et pour qu'il me commande ce bouquet pour la fête des mères, pour qu'il offre à sa femme. Donc, et là même, il a insisté d'acheter le bouquet. J'ai dit, mais monsieur, moi, je vais l'offrir, ce bouquet, je ne veux pas vous le donner. Donc, c'était vraiment assez... ça m'a tellement marqué. Le fait, voilà, que les gens ont bien aimé, ça m'a tellement marqué. Et même la réaction de la tante de mon mari, c'était vraiment... Enfin, là, je me rappelle très bien comment elle était. Elle était émue, elle a adoré. Et depuis, je trouve que c'était vraiment quelque chose. C'était un point marquant dans le début de ma passion.
Je trouve que c'est ça la pâtisserie en fait. C'est ce fait de partager des émotions.
Enfin,
moi, je le ressens comme ça aussi quand je fais un gâteau.
Exactement.
et que je vois ce que ça procure chez les gens. Enfin,
tout à fait.
C'est ce fait de rendre les gens heureux avec un gâteau, c'est magique.
Exactement. Et surtout que tu le prépares avec amour. Donc, du moment où les gens vont goûter, voilà, et que tu te dis c'est bon, c'est délicieux, etc. Tu es tout de suite... Enfin, c'est une sorte de reconnaissance. Tu as l'impression que, voilà, tu es contente parce que tu les as rendus aussi contents.
Donc, c'est ça.
C'est beau, c'est beau.
Merci, Maciel.
Et merci à toi, vraiment.
Vraiment, je te remercie pour cette première interview qui m'a énormément stressée, mais je savais qu'avec toi ça se passerait bien.
Oui, merci à toi.
Et voilà, merci pour ta voix absolument délicate.
Merci
et je suis sûre qu'elle apaisera beaucoup de personnes.
Oui.
Et donc, on va tout de suite faire ce challenge avec mon appareil photo.
C'est parti.
Et tout ça sera en ligne après sur mon blog, sur Instagram, partout.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Merci
beaucoup
Maciel.
À toi, Manon. Un plaisir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Maciel sur Instagram sous le pseudo @mzcuisine ou sur son blog Falling From Stars. Elle est toujours très disponible pour échanger avec tout le monde. Ensuite, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le blog Ingénieuse Pâtisserie, rubrique podcast Le Départ. N'hésitez pas à me laisser un petit mot ici ou sur Instagram, toujours sous le pseudo Ingénieuse Pâtisserie tout attaché. J'ai très hâte d'avoir vos premiers retours et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Mais en attendant, prenez soin de vous.